Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour auditeurs, bonjour public, merci d'avoir cliqué sur play. Devant toi, il y a une petite heure de papote, de discussion et de débat consacré aux objets culturels dont tout le monde parle en ce moment. Il sera question de Still the Water de Naomi Kawase, c'est un film, de Calavera de Charles Burns, c'est une BD, de The Affair, c'est une série, et de My Favorite Faded Fantasy, c'est un disque, celui de Damien Rice. L'équipe en place aujourd'hui pour évoquer tout ça rassemble la crème du caviar, de l'écume, du journalisme belge francophone.
Au moins ça.
C'est la Dream Team du magazine Focus Vif, avec Laurent Raphaël, rédacteur en chef du magazine. Salut Laurent.
Salut.
Laurent Aubrex, le chef des pages musique. Bonjour Laurent Bis.
Bonjour.
Et avec Olivier Van Varenberg, chef de rien, mais roi de tout, spécialiste des mauvais genres littéraires.
On va dire ça, c'est le mérite.
Focus Store, saison 3, épisode 3. C'est parti.
お母さんあんま良くないんだ。
なんか見えてるんじゃないの？
でも京子の母さんリタガメ様やろ？
Still the Water, c'est un film japonais signé Naomi Kawase, présenté à Cannes en mai dernier, pressenti un moment pour la Palme d'Or, et puis non rien. C'est une ode à la nature, à la puissance des éléments face à la petitesse de l'homme. C'est un film qui dit que quelle que soit l'ampleur de notre douleur, elle n'est rien face au ressac de l'eau sur les pierres. C'est un film sans histoire, ou presque, et il faut l'accepter, hein, que c'est sans histoire. On y voit deux adolescents faire l'expérience de l'amour et de la mort sur une île magnifique qui n'a pas été épargnée par la modernité, mais qui a conservé ses traditions. Il y a du vent dans les arbres, le grain de peau velouté de la jeunesse, il y a du chamanisme, il y a des pentes, des vallées à vélo, il y a du vent. J'ai trouvé à ce film de très grande qualité esthétique, mais alors d'un point de vue émotionnel, il ne m'a laissé absolument froide. Dans le jargon scénaristique, hein, que j'aime bien convoquer, on pourrait dire qu'il n'est pas vraiment surdramatisé, ce film.
Parce qu'il en parle bien.
En tout cas, une partie de la presse parle de chef-d'œuvre, dont une partie de notre presse à nous. De 10, il a mis 10,
Jean-François. Ah oui, et on en emploie souvent le mot chef-d'œuvre.
Ah ouais, ouais, ouais. Et quand est-ce qu'il a mis 10 dans l'histoire?
Ça arrive une fois par an, et c'était la semaine dernière.
Okay. Cool.
Il a dû aimer The Mood for Love ou des choses comme ça.
Et une autre partie de la presse dit s'être fait royalement chier. Laurent Aubrex, est-ce que tu as vu le film? Oui.
Oui.
Tu es de quel côté de la barrière?
Plutôt du. Je me suis pas emmerdé, ce serait un peu trop fort, mais j'avoue que s'il n'y avait pas eu l'espèce de. Le dernier tiers du film, je me serais quand même posé pas mal de questions sur le côté, en effet, un peu évanescent du truc. Dans l'article de Jean-François, justement, il termine en citant la réalisatrice qui explique que la seule façon de filmer l'invisible, c'est d'y croire. Et donc ça en dit quand même beaucoup sur un film où en effet il faut rentrer dans le truc, y croire pour vraiment dépasser quelque chose qui tient parfois à la philosophie un peu animiste de
comptoir.
Ouais, ouais,
il fait des guillemets avec ses doigts.
En tout cas le cas.
Ouais, je fais des guillemets. oui mais c'est ça, en fait il y a quand même des sentences qui même remises dans leur contexte du genre donc c'est l'histoire donc de, on a dit, de deux ados dont une fille dont la mère est en train de mourir, donc forcément ça lui pèse, elle en discute cet ado avec ça lui pèse, ouais. elle en discute avec les aînés qui lui disent par exemple à un moment, oui elle va disparaître physiquement mais elle va rester dans ton cœur, enfin, ce genre de
mais c'est le rapport à la mort qui n'est pas le même que nous qui
est enfin,
crédible, je pense
on pourrait très bien l'entendre dans c'est un prochain épisode de Plus belle la vie ou un truc comme ça.
Oh, comme il est sévère.
Oui, enfin, dit dans la bouche comme ça de ces vieux de la vieille japonais, ça sonne avec 1000 ans d'histoire derrière. Il y a tout de suite une espèce de connotation beaucoup plus spirituelle que ce qu'on pourrait entendre.
Ouais, mais il y a justement un côté aussi qualité Japan, qualité zen. Moi, je me rappelle, j'ai été voir donc ce film, on n'était pas énormément dans la salle, mais alors il y avait une espèce de. D'ambiance comme ça, très religieuse. Il y avait quelqu'un qui avait eu le malheur d'amener
du pop-corn.
Alors, moi, c'est ce qui m'agace aussi terriblement quand quelqu'un mange à côté de moi. Mais là, j'ai l'impression que le mec allait se faire lyncher par la moitié de la salle.
Mais ça, ça tient un peu au public du Vendôme, hein, qui est quand même très très particulier.
Et au film, ça ne se prête pas trop au pop-corn qu'on mâchouille.
Là, tu casses tout ce qui pourrait casser un peu le charme du film, forcément, est dérangeant.
Ouais,
parce qu'il y a un côté très spirituel, mais sans les scories divinatoires et autres, parce que c'est le cycle de la nature, c'est le cycle de la vie et de la mort. Enfin, pour rebondir, moi, je trouve ça très, très rafraîchissant aujourd'hui de pouvoir se mettre dans une bulle comme ça et de s'inscrire dans une lenteur, de se mettre un peu en observateur de sa mode de vie qui est beaucoup plus lent, qui est dans une dynamique tout à fait contraire à la nôtre de frénésie perpétuelle. Et je trouve que ça fait un bien fou de revenir à des choses comme ça essentielles. Alors oui, on filme la nature, les vagues qui se brisent sur les rochers. Mais en même temps,
le typhon quand même.
Ouais. Le typhon, il y a toujours une notion de danger derrière aussi. C'est pas puéril, cuculapraline. Enfin, c'est une manière de filmer qui est assez fougueuse. On sent cette île qui est finalement une métaphore aussi du Japon, qui est une île aussi, mais où toujours en train à la limite de basculer voire de disparaître intégralement. Par un tsunami, forcément, on y pense. Mais voilà, les émotions, comme la nature, sont en interaction. Et moi, ça m'a fait penser un peu à la force, une espèce d'haïku visuel, à la force des estampes japonais d'Okuzai, qui sont une simplicité graphique, mais qui charrient comme ça des choses très, très fortes et toujours proches de la nature. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai vécue, j'ai traversée à travers le film, et notamment, comme on le disait en aparté avant, qui joue aussi sur la beauté de la nature, mais même des êtres
gens,
humains,
oui.
Puisqu'ils sont tous très beaux, magnifiques, les jeunes comme les vieux. Et ils ont vraiment une présence et un charme fou qui participe aussi, je trouve, qui nous aide aussi à entrer, parce qu'il y a une forme d'extase. C'est pas uniquement la mort, mais ça passe par la beauté, ça passe par beaucoup de transmissions. De choses.
Et en même temps, c'est filmé souvent caméra à l'épaule, comme ça. Enfin, il y a un côté un peu documentaire qui fait que ça enlève, malgré tout, un peu le truc un peu
mais qui est revendiqué,
enfin, vraiment devenir trop léché, trop beau.
Mais c'était expliqué dans les interviews qu'elle avait données dans le magazine à Jean-François, où il y a cette approche documentaire qui est très importante pour elle. C'est une île où elle sort du compte qu'elle avait de la famille, donc il y a toute une approche quand même qui se veut très authentique.
Et puis elle a aussi perdu un proche pendant le tournage du film. Sa mère
certaines adoptive. Scènes funèbres, en effet, on ressemble un peu à des documentaires. Sur le folklore local.
Mais la danse du mois d'août, là.
Cette scène, on peut le dire, c'est un secret. La mère qui est en train de mourir va mourir. Cette scène est magnifique.
Tu spoiles tout.
C'est quand même très
toute la dramaturgie du film.
Mais non, parce que, comme on dit, les Laurent, c'est plutôt une expérience sensorielle que vraiment dans la narration. Ce cadavre qui apparaît au début, finalement, devient presque anecdotique dans le récit. C'est plus un moment, c'est une bulle de sensation pendant une heure et demie qui est assez étonnante. Moi, j'avais très peur en y allant. C'est pas du tout mon style de cinéma d'habitude. J'avais peur du truc contemplatif où j'étais persuadé que j'allais m'endormir.
C'est une manière de nous reconnecter un peu avec un au-delà. Et je trouve que voilà, c'est enrichissant et c'est important qu'il y ait des films comme ça. Et les Japonais sont assez spécialistes. Hein. On se souvient de Still Walking, qui était aussi autour de la thématique de Koreeda, la thématique de la mort. Une famille qui vivait le deuil était confrontée chaque année à ce fantôme de l'enfant qui avait disparu, mais avec beaucoup de pudeur, et il n'y a rien à faire. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment fascinant dans la culture japonaise. C'est cette capacité comme ça à absorber, à transmettre les choses avec une économie de moyens. Et ici, un mot en vaut mille dans un autre cinéma, quoi. Donc je trouve ça
c'est ce qui se reflète d'ailleurs dans les sous-titres français néerlandais. C'est pas souvent la même traduction.
C'est vrai.
Enfin, il y a quelque chose de très étrange comme ça, la manière dont on s'est retranscrit.
Et puis il y a un personnage qui ne parle carrément presque pas, voire il doit dire 15 mots, quoi. Le petit Kaito qui ressemble à Dragon Ball Z, il sort vraiment d'un dessin animé, hein. C'est complètement fou. Alors dans les pages de Focus, notre ami Jean-François Pleugers nous dit ceci, on va le citer, hein. Levé dans une nature d'une ravageuse et immuable beauté, ce film magique, on doit avec grâce dans la mer de l'existence. C'est déjà beau, hein. C'est là, évoquant le tabou de Murnau ou le Still Walking de Koreeda, un pur enchantement aussi discrètement éblouissant que durablement pénétrant, un chef-d'œuvre qui, incompréhensiblement oublié du palmarès du dernier festival de Cannes, n'usurperait certes pas le titre de film de l'année. Voilà.
Conclusion, n'ayez pas peur, allez-y.
Et dépêchez-vous, parce que...
Mais, voilà, mais dormez bien avant, parce que...
Non, mais c'est quand même très étonnant que c'est quand même un film de grande qualité. Il y a une salle à Bruxelles qui le donne. C'est hallucinant.
Oui.
Qu'a priori, il a quand même fait des prix, il a fait des festivals. Il faut aller chercher une salle qui le donne, je ne sais pas combien de séances. C'est vraiment étonnant, parce qu'il vaut... beaucoup d'autres films, même si c'est tout à fait particulier.
Oui, on le programmerait pas à Jesse Brooker.
Qui a 18 ans à casquette, je pense qu'il va quand même pas tout à fait tomber dans le bon film. Mais...
Je trouve ça très stigmatisant. Ce que
c'est stigmatisant, mais il n'y en avait pas dans ma salle. Hein,
oui, non, c'est certain. Il y en a rarement au Vendôme. Moi, je lui mets 8 sur 10, mais je trouve que c'est un peu bizarre de côté un film pareil. Mais, voilà.
Je suis d'accord avec toi, c'est difficile, mais je n'ai pas passé un mauvais moment. Un bon 7.
Ouais, 9, facile.
Un 7.
On parle de BD dans Focus Store avec une sortie assez majeure. C'est le dernier tome de la trilogie en couleur de l'américain Charles Burns qui s'intitule Calavera. Avant ça, il y avait Toxique et La Ruche. Alors, je dois vous dire que même si le récit est plutôt feuilletonnant, il est tout à fait possible de ne lire que le dernier tome. J'ai lu le dernier et puis les deux premiers. Et ça marche, ça marche. Et pourtant, c'est pas comme si Burns prenait son lecteur par la main. De toute façon, c'est pas comme s'il livrait toutes ses clés. C'est aussi ce qui fait de ces BD une expérience de lecture singulière, envoûtante, mal à l'aisante aussi. C'est donc l'histoire de Doug et de Johnny. Doug qui est un jeune homme puis un adulte. Johnny qui est une sorte de personnage de cartoon, un Tintin punk. Johnny qui est un peu le Jiminy Cricket, l'inconscient de Doug. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ils évoluent dans une réalité parallèle et les aventures de l'un enrichissent celles de l'autre et vice-versa. C'est graphiquement... c'est sublime, c'est noir, c'est glauque, c'est complètement tordu. Je serais bien tentée de dire que c'est un chef-d'œuvre. Et toi, Olivier, mais déjà, raconte-nous de quoi ça parle.
Ah, la question piège. Eh bien, écoute, c'est à peu près, on en revient à Stillwater, puisqu'on est dans la suite. C'est très compliqué à raconter parce que je pense que c'est d'abord une expérience de nouveau sensoriel plus que narrative. Donc, tu l'as dit, ça se passe dans les années 70. Pour être, si on veut être très concret, c'est les aléas et les affres intérieurs d'un personnage qui s'appelle Doug, qui a la petite trentaine, qui est mal dans sa peau et qui est dans la scène punk californienne de l'époque. Il vend des t-shirts, il rame avec ses gonzesses, il a des problèmes comme ça.
Un type assez banal, quoi.
Banal, et à la base...
Les performances aussi.
Oui, voilà, ça c'est moins banal, oui, par contre.
Dès qu'on gratte chez Burns, rien n'est banal, évidemment. Donc il fait des photos avec sa copine et on se rend compte que ses photos sont quand même très arby. Voilà, il se passe plein de choses autour de ça et c'est vraiment l'œuvre burnsienne par excellence, si on peut parler comme ça. Pour résumer, Charles Burns, c'est vraiment plus aujourd'hui quelqu'un qui est considéré comme un artiste contemporain, plus que comme un auteur de bande dessinée. Depuis Black Hole, qui a été son plus gros succès, depuis les travaux qu'il a fait dans le magazine Raw avec Art Spiegelman, voilà, il a imposé une esthétique vraiment dans la culture américaine mainstream qu'on retrouve dans la publicité, qu'on retrouve dans la com, qu'on retrouve dans l'animation. Il est vraiment très présent. Cette ligne claire, comme tu l'as dit, qui distille un malaise permanent, c'est ça la force de Burns. C'est un trait qui exprime en permanence une esthétique qui met mal à l'aise et qui va toujours gratter dans des thématiques récurrentes dans toutes ses œuvres pourtant très différentes. C'est les malaises d'adolescence, c'est l'ouverture à la sexualité, c'est le rapport ici un peu plus fort à l'enfantement, à la naissance, à la mère. C'est tous les traumas de l'American Way of Life qui va gratter. Et il exprime, c'est vraiment des affres intérieures qu'il adore exprimer visuellement. C'est toujours ce rapport-là. Donc, pour reparler de Black Hole, qui a été vraiment, encore une fois, son plus connu, qui finira peut-être un jour en film par Fincher.
C'est vrai.
On en parle toujours. C'est le, c'est le Loch Ness d'Hollywood. On fantasme beaucoup là-dessus.
Je me vois mal comment c'est possible, vraiment, d'avoir des effets spéciaux de dingue.
Ah, il en faudrait beaucoup, puisqu'en gros, c'était ça. C'était une sorte de peste mutante chez les adolescentes. Et donc, le malaise intérieur s'exprimait vraiment dans la réalité par des malformations, des bubons. Enfin, voilà. Dans la réalité. Ici, dans cette trilogie, parce que c'est vraiment une trilogie, ça rapporte tout à fait différent, puisque, tu l'as dit, on est dans deux univers. Il y a l'univers réel de Doug dans la vie réelle, et puis un univers onirique, qu'on ne comprend pas très bien, on ne sait pas d'où il vient, qui est bourré de références. Il faut bien comprendre que l'album se finit sur la première scène de Toxic, qui sont les références. On cite souvent Burroughs et RG ici, c'est un peu la porte d'Alice, puisqu'il est dans une pièce un peu bizarre. Un trou dans la porte, un chat qui est censé être mort depuis longtemps, et il passe cette porte, qui est une référence évidemment à Alice et à ce genre de passage en Eric. C'est aussi une référence à Hergé, puisque c'est une scène détournée de Rackham le Rouge, si je me souviens bien.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc il y a en permanence dans l'univers de Burns des clins d'œil comme ça, esthétiques, graphiques, narratifs.
Clin d'œil aussi à ces fameux champignons de l'île Noire.
Voilà, exactement. La couverture de Toxic, c'était ça, c'était détournement de l'île Rouge, c'est... C'est le côté obscur de Tintin. Il ne dira jamais que c'est Tintin. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2-3 ans.
Ah, il l'a dit dans une interview que j'ai lue. Hein. Oui, oui.
Disons qu'il y a évidemment une référence qui va jusqu'à son nom. Hein. Je crois que dans le premier album, il s'appelle à un moment Nit-Nit, voilà, oui. Qui est Tintin à l'envers. Dans l'esthétique, il n'y a pas de doute. C'est évidemment une sorte de Tintin obscur, sombre. Comme lui, comme Burns pouvait l'imaginer enfant, c'est-à-dire quelqu'un de naïf, qui est un peu vierge par rapport à ce qui lui arrive autour de lui.
Il explique bien qu'il a un peu laissé macérer ici toutes ses influences. Comme tu disais, c'est ce trauma de l'Amérique, mais revisité à travers ses clés, les clés de ses propres influences de jeune, étudiant en art, ancien punk de la scène californienne, qui a découvert Tintin. Mais dans les rares versions qui avaient été traduites et qui les découvraient aussi en français, mais sans capter ce qui se passait. Donc il y avait un côté très surréaliste chez Tintin pour lui. Et il a brassé tout ça ici et il recracha avec ce côté très graphique, très lynchéen. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'y penser dans le côté labyrinthique du personnage. Et en même temps, comme tu le disais, ce qu'on y trouve, un récit, une narration claire, parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de l'enfantement, le fait d'être père, il y a toute cette question-là.
La drogue, une thématique qui revient beaucoup chez lui aussi.
Voilà, il y a ce leitmotiv, mais c'est surtout un créateur d'univers qui est fabuleux et qui fait que la bande dessinée ici atteint un rang de d'art au sens le plus noble du terme. C'est vraiment, ça convoque toutes les caractéristiques d'une œuvre d'art.
Ouais, complètement. C'est d'abord esthétique, j'ai l'impression, cet album. C'est d'abord une expérience. Toutes les cases, enfin toutes les pages sont vraiment d'une force.
On voudrait que chaque case ait un agrandissement pour le mettre à la limite dans son salon, tellement c'est
puissant. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis la couleur, je trouve, n'enlève pas le malaise qu'il y avait par exemple dans Black Hole, qui était du noir et blanc.
Tu as raison de souligner. C'est vrai qu'ici, c'est la première fois, il y avait vraiment d'abord pour lui, qu'il a entamé cette trilogie, un travail sur la couleur. C'était se laver de cette. Ça devenait presque une caricature de la ligne claire, noire, typiquement américaine, comme plein d'autres en ont fait. Parfois très bien, parfois très mal. Il a vraiment voulu casser ça en mettant de la couleur. Et c'est vrai que ça ne casse absolument rien à la force de ces noirs, de ces clairs obscurs, de ces ambiances, du malaise qu'il met. Et il joue avec des aplats qui sont très classiques dans la bande dessinée presque franco-belge. On revient à des références aussi purement picturales BD, mais il en fait quelque chose d'autre et qui sont vraiment, comme tu dis, une expérience plastique vraiment très forte dans ses narrations, dans sa manière d'enchaîner un univers à un autre. Et donc finalement, ce qu'il raconte est le devenir de Doug importe peu, le résumé de l'album importe peu, c'est vraiment une expérience, encore une fois, esthétique, tu ouvres ce truc, tu rentres dans l'univers de Burns, qui est encore une fois d'une très grande cohérence par rapport à tout ce qu'il a déjà bâti depuis 20 ou 30 ans, et où il atteint un summum dans la manière de le faire et de manier.
Il faut préciser aussi qu'il y a en gros 4 strates, et qui passent en permanence de l'une à l'autre, ce qui évidemment nous déboussole un petit peu.
Ouais, après avoir c'est l'ambition.
Le premier, on attend le troisième pour voir un peu s'il y aura une issue, et il y en a une qui fait un peu tenir l'ensemble, mais il arrive comme ça à interpénétrer les différentes strates de manière assez bluffante par des jeux graphiques de cases, de couleurs, etc.
Qui sont très simples en soi, hein. C'est vraiment pour des aplats de couleurs, des cases simples où il n'y a pas de narration là du tout.
Mais avec des angles de vue très cinématographiques aussi. Ouais, on imagine très bien ce que ça peut donner. Quand même avec une caméra.
Ouais, tu l'as dit, Lynch, il y a une référence comme ça permanente quand on lit cet album de sensation de pas savoir exactement où on est, de ce qu'il nous raconte, où est la réalité, où est le rêve, où est l'inconscient.
Et le côté jeu de piste underground est intéressant parce que souvent on a tendance à coller des étiquettes où les deux univers sont un petit peu imperméables l'un à l'autre. Soit c'est un peu du mainstream narratif assez classique, soit on est dans l'underground un peu incompréhensible si on n'a pas les clés, et je trouve qu'ici il arrive très bien à rejoindre les deux. C'est à la fois la grande culture populaire, bon, Tintin forcément, mais aussi à travers les thèmes qu'il aborde, mais avec des clés qui sont a priori plus hermétiques, mais dont il arrive à faire quelque chose de tout à fait accessible. Et je trouve que c'est pour moi, enfin, c'est un maître absolu, je trouve, aujourd'hui. Et Olivier en avait parlé à l'époque quand il a fait son exposition.
C'était magnifique.
Il a fait une exposition à Louvain.
Une grande rétrospective, voilà, c'est fait au M-Museum.
Parce qu'on voyait un peu toute l'évolution de. qui a une longue carrière avant Black Hole, d'illustrateur, etc., dans Road, dans Mad et compagnie, qui montre un peu le foisonnement avant d'arriver ici, qui est l'œuvre de maturité de cet auteur.
Est-ce que c'est la plus grande star de la BD mondiale aujourd'hui?
Bon, aux États-Unis, il y en a quelques-uns. On peut citer Chris Ware, dont les Building Story sortent en français récemment, qui est aussi un chef-d'œuvre dans son genre. Ils ont quelques grands artistes vraiment dans la bande dessinée contemporaine, dans le roman graphique. Burns, c'est vraiment une référence. Encore une fois, il faut se rendre compte à quel point il a imposé un style, une manière de faire dont plein se renseignent. Enfin, on peut citer Chester Brown, Mezzo ici. Vraiment, ce trait, cette ligne claire, sombre, c'est une influence majeure des 30 dernières années.
Dis, je sais qu'ils en parlent bien tous les deux, Laurent, mais que ça ne t'empêche pas de...
Par la ligne claire, sombre.
Oui, c'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites, mais toi, ta conclusion.
Oui, je suis plus complètement d'accord. La seule réserve, c'est en effet, au bout des trois tomes, on se dit un peu « Ah, en fait,
tout ça pour ça ».
Mais ça n'empêche qu'en effet, l'association entre cette ligne claire à nouveau et les délires que peut avoir le héros sous drogue ou avec des ambiances extrêmement malsaines. Et je trouve que c'est souvent quand même très compliqué de retranscrire les associations bizarres qu'on peut avoir dans les rêves ou dans les cauchemars en l'occurrence. Ici, il le fait super bien avec des ellipses et tout en restant cohérent et lisible. Je trouve ça assez épatant, en effet.
Moi je mets 9 sur 10 parce qu'on met pas 10. Hein. À part Jean-François Pleguer, personne ne met 10.
Moi je mettrai un bon 9 aussi.
Oui, vraiment tout proche du 10.
Oui.
Un bon 8.
On regrette que ce soit si court. Hein. Calavera de Charles Burns.
Miss Bailey, do you remember seeing him for the first time?
It was so long ago, who remembers?
We're hoping that you do.
I was a happy man back then.
But?
Well, that's it, there is no but. When I look back, I can't tell you why it happened.
10 affaires, c'est une nouvelle série de la chaîne Showtime qui a le même créateur que In Treatment, l'Israélien Hagai Levy. Le bonhomme est spécialisé dans ce qu'on appelle les high concepts, des concepts très forts qui se pitchent plus avec leurs prémices qu'avec leurs personnages. Le pitch donc part du principe que tout est perception, qu'il y a toujours deux faces à une médaille, en l'occurrence ici, deux visions d'une relation amoureuse, d'un adultère en fait. Noah, un écrivain en mal d'inspiration en vacances au bord de la mer avec sa famille, qui rencontre Allison, une petite serveuse sexy qui fait le deuil de son enfant. Noah est joué par l'excellent Dominic West, McNulty de The Wire. Elle est incarnée par Ruth Wilson, on l'a vu dans Luther. Les voilà donc tous deux dans une série américaine, très peu américaine je trouve, très peu formatée au spectaculaire, où le point de vue de la femme sur cette histoire succède à celui de l'homme. Elle se voit timide et empotée, il la voit vamp et séductrice, elle voit sa jupe aux genoux, il la voit à ras des fesses. Elle a l'impression que c'est lui qui l'a embrassée, il se souvient exactement de l'inverse. 4 épisodes ont déjà été diffusés. Ils sont, je trouve, discrètement séduisants. Peut-être qu'ils le deviendront davantage quand on en saura plus sur le meurtre placé en toile de fond. Ce qui fait toute la séduction de cette série... Oui.
Je n'ai toujours pas compris qui était mort.
Fellow. Voilà, cette série a la richesse de ses limites. On en parlera un peu plus tard. Laurent Raphaël, qu'est-ce que tu penses de cette série?
Comme toi, c'est alléché au départ. Je trouve que le système fonctionne assez bien des deux regards dans chaque épisode. Les sujets sont assez classiques, hein, le couple, la famille, derrière le vernis un petit peu standard, on va un peu gratter, voir qu'il y a des failles, qu'il y a des malheurs et que forcément ça ne tient pas nécessairement la route.
Alors on va laisser le chef.
C'est génial parce que généralement c'est moi qui
dois replacer son micro.
La première fois c'est le chef qui est en train de se débattre avec son pied.
J'ai l'impression que je vais serrer.
Parce qu'une bosse va bien plutôt le pousser dans le dos tellement qu'il doit se baisser pour parler dans ce micro. Sinon quelqu'un peut embrayer. Hein.
Il a eu peur.
Je garde la parole. Non, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, le sujet en lui-même n'est pas original, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté rarement vu du côté américain et qui me fait presque plus penser à une série australienne.
Mm-hmm, c'est vrai.
Un univers un peu à la Top of the Lake, comme ça. Mm-hmm. Un petit côté un peu mystérieux qui flotte sur la, sur la série. Je crois que c'est dû à la fois à la manière de filmer et de porter un peu l'attention sur des choses évanescentes, mais aussi au dialogue et au discours. Bon, comme tu disais, c'est quand même l'auteur de In Treatment, donc le travail sur les dialogues et la construction narrative à ce niveau-là est assez riche. Et mène à des pistes, des impasses, mais voilà, on sent qu'il y a un travail de fond là-dessus pour pour semer le trouble encore un peu plus, puisque finalement il se passe relativement peu de choses, donc c'est très écrit, et je trouve que de ce point de vue-là ça fonctionne assez bien.
Le physique des personnages aussi participe à ça, je trouve qu'ils sont assez particuliers. Ils sont anglais, on voit bien que ce ne sont pas des Américains, ils sont beaux, mais ils sont spéciaux, quoi.
Notamment Russ Wilson qui joue qui joue très bien, je trouve, cette dualité d'un côté un peu perverse et puis de l'autre côté effarouché, complètement prise par sa douleur de mère qui a perdu son enfant, et on sent, elle joue sur cette corde comme ça de manière très subtile, et ça apporte de l'ambiguïté à l'ensemble. West, on connaît ses qualités, et il en joue très bien de son charme, mais voilà, je trouve que du coup c'est intéressant. Maintenant, après 4 épisodes, cette structure en 2 temps, il faut qu'elle évolue, parce qu'elle risque de devenir un peu systématique, et elle pourrait prendre un peu le pas sur l'intérêt narratif.
C'est là que Laurent embraye.
Non, mais c'est déjà le cas dans le 4e, non, dans le dernier, si je me souviens bien.
Ça commence
bien,
un peu à se mélanger.
Parce qu'en effet, l'épisode est découpé en 2, il donne d'abord la version
de l'homme.
De l'homme. Noah, c'est ça. Et ensuite, dans la deuxième moitié, c'est Ellison.
Et dans le 4e, on enchaîne sur la suite. On ne revisite plus les mêmes événements à travers les yeux de la fille, mais on embraye. Donc ça va évoluer. A priori, c'est dans un bon sens. Ils ont trouvé le bon moment pour faire bouger un peu les lignes.
Et je pose la question, c'est une mini-série, j'imagine. Ça
c'est 10 épisodes.
10 épisodes.
Maintenant, je crois que ça va se limiter à 10 épisodes.
Oui, je ne vois pas très bien ce qu'ils pourront en faire de plus une fois qu'on aura résolu cette boucle-là.
On aurait peut-être pensé une spin-off. Oui, exploiter un peu. Oui, c'est ça,
oui, parce qu'il y a
sur les personnages secondaires, et notamment en particulier...
Le beau-père,
que je trouve génial, qui était aussi dans The Wire, qui est un habitué des séries américaines. Je trouve que lui, dès qu'il ouvre la bouche, c'est génial. Et à lui seul, j'ai un petit regret qu'on l'exploite pas plus, parce qu'il est faramineux, quoi. Enfin, justement, le sale mec, enfin, le mec parvenu et plein de cynisme.
Grand écrivain, visiblement.
Grand écrivain de best-seller, qui donne des conseils à son beau-fils qui tente d'être écrivain lui aussi. C'est assez succulent. Donc, c'est un personnage qu'on aimerait voir un peu exploiter un peu plus.
C'est vrai qu'à la base, sur cette série qui n'a absolument rien à voir avec The Wire, il y a ce plaisir basique de retrouver et Dominic West dans un rôle quand même très différent et où il est vraiment très bon, et voilà ce clin d'œil là de cet acteur dont le nom m'échappe.
Oui, moi aussi je le trouve.
John Doman,
voilà,
d'accord.
Mais enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, moi j'ai beaucoup aimé le début de la série, il faut voir où ça nous mène, mais ce jeu de la double narration qui est à la fois intéressante pour les acteurs, parce qu'ils ont quand même, en tout cas au début, c'est assez subtil les différences, comme tu dis. Elle se voit timide, lui la voit plus délurée, ça se joue finalement à pas grand chose.
Il faudrait re-regarder chaque épisode parce qu'il y a tellement de petits détails.
Voilà, donc ça c'est intéressant et pour les acteurs et pour la manière effectivement d'envisager une vraie réalité. Il y a presque un jeu à la Queneau comme ça.
C'est ça, oui. C'est que
là-dedans.
Au bout du compte, tu peux toujours te demander qui finalement a raison ou a tort.
Et je crois qu'en tout cas qu'au début, ils croient à leur version.
Ils ont vécu
leur réalité comme ça, de manière forcément très très différente. Il faut voir où ça va mener, s'il y a. Mais en tout cas, ça c'est intéressant au niveau de la narration et de la manière de faire. C'est original, j'avais pas vu ça dans d'autres séries. Après, il faut voir.
Moi, je prenais une image, mais c'était un peu une version balnéaire de Fatal Attraction.
Oui, il y a un peu de ça. On se demande si c'est une mangeuse d'hommes.
C'est ça.
Parce que ça va jusqu'au. Enfin, tu l'avais déjà dit un peu, mais ça va jusqu'au point où, dans la version de l'homme, Allison a une mini jupe.
Dans la version d'Allison, elle est en pantalon.
Je trouve que c'est quand même assez bien vu et assez bien foutu.
Ouais.
À partir d'un truc qui est quand même, en effet, on ne peut plus classique.
Tu refais une narration complètement normale là-dessus, ça n'a pas grand intérêt. dans l'histoire. C'est vraiment ce découpage qui est fait, ce puzzle mis en place, qui est intéressant, mais qui est
mais y a quand
un
même
truc récurrent
un
de trouver
petit côté redondant, hein, un petit côté redondant où on redit, enfin normalement dans l'écriture de scénario, je reviens toujours, on ne peut pas dire ce qu'on a vu, ni voir ce qu'on a dit. Et là, on voit ce qu'on a vu.
D'accord.
Voilà, on ne peut pas tuer une fois mille personnes.
Tu peux tuer une fois.
Laurent, toi, voilà.
Oui, je trouve aussi que c'est par moments la limite, quoi, de certains épisodes où forcément, comme on revoit les mêmes événements, même d'une autre perspective, on revoit malgré tout certaines choses. Et donc, ouais, ça peut, malgré tout, on a quand même envie d'aller jusqu'au bout du truc et de connaître.
En sachant qu'a priori, ça fait pas 20 épisodes.
Ouais. Ouais. Donc.
Et bien s'y griffer aussi cette histoire de. Oui, de policière, mais qui arrive vraiment en bout de course. Ouais. Comme ça, on ne sait même pas si elle a vraiment un intérêt. Enfin,
j'espère.
Oui, c'est ça. Il faut préciser que tous les deux racontent l'histoire a posteriori, alors qu'ils sont interrogés par un flic, chacun de leur côté. Ouais. Et il y a un petit côté trou détective dans le schéma.
Voilà, je le disais, exactement.
Puisque forcément, c'est le même principe du flashback où chacun raconte son histoire. Voilà, donc c'est des choses un petit peu déjà vues, mais ils le font intelligemment, je trouve.
Voilà, tout à fait.
Donc la question de qui tue, vous poursuivrez la vision hors obligation pour cette émission ?
Eh bien, je crois.
Je pense.
Oui, moi aussi, je crois.
Ok. 7 sur 10 pour moi, pour The Affair.
Oui, 7, c'est bien.
Pas mieux.
Ouais.
Ah bah voilà. Wherever you go, well, I can always follow. I can feed this real slow. If it's a lot to swallow, if you just wanna be alone. I can wait without waiting. If you want me to let this go, well, I am more than willing. Oh, 'cause I don't wanna change it. I don't wanna change it. I don't wanna change your mind. On va terminer les figures imposées avec la musique My Favorite Faded Fantasy. C'est le nouvel album de l'Irlandais Damien Rice. Il paraît 9 ans après le précédent, qui était lui-même sorti 4 ans après son premier. C'est donc son troisième, je compte bien. Damien Rice fait ici encore du Damien Rice. À cet égard, j'ai lu un tweet.
Allumez les bougies.
J'ai lu un tweet qui m'a fait assez rigoler, signé Pain Noir, qui disait: j'écoute le nouvel album de Damien Rice, c'est un assez bon album de reprise de Damien Rice.
Tout à fait ça.
Oui, c'est vrai. Il réinvente pas la musique, il se réinvente même pas lui-même. Il n'empêche, je trouve ça difficile de mépriser ce qu'il fait parce que, allez, merde, c'est quand même simplement joli, hein. Un petit peu fêlé, un petit peu lézardé.
Tu sais qu'il y a toujours un moment où ça va fonctionner, quoi. Il y a toujours. Tu prends n'importe quel morceau, 9 fois sur 10, ça va te paraître beaucoup trop cheesy, mais la 10e.
Mais c'est quand tu seras cheesy, dans un certain état d'esprit. Et parce qu'il a quand même la voix qui se brise telle les vagues de Stillwater sur les roches de son âme.
Profondeur quand même. Ouais. Ça reste,
Il est obligé d'avoir des envolées pour que ça devienne intéressant, je trouve, dans ses chansons. Sinon, c'est.
Bon, ouais. On va laisser le chef des pages musiques en parler. Moi, je veux juste vous dire que j'avais bien aimé beaucoup, en fait, les 9 minutes assez enluminées de It Takes a Lot to Know a Man. C'est la chanson que je vais retenir de cet album. Toi, Laurent, qui a fait de l'écoute des disques ton métier.
En 8 ans, c'est quand même un peu court. Hein.
9 minutes, ça prend du temps à composer. Hein.
Une minute par an.
Voilà.
Moi, j'ai un problème parce que j'avais vraiment, je l'avoue, je fais mon coming out, j'avais vraiment beaucoup aimé son premier album.
Avec The Blower's Daughter.
Voilà, c'est ça. Tout ça dont la moitié du titre est fini dans des séries américaines.
Tout à fait.
Mais après, je crois que ça a dû durer 6 mois parce que j'ai l'impression que le ballon s'est très vite dégonflé, quoi. C'est un peu comme vous avez un rendez-vous avec une fille que vous reluquez depuis des années, ça dure, vous sortez avec elle deux soirées, puis la troisième, vous vous rendez compte qu'en fait elle est complètement creuse, et j'ai l'impression que Damien Rice, c'est un peu ça.
J'aurais pas eu besoin de trois rendez-vous.
Tu manques de sensibilité.
Peut-être, oui.
Oui, c'est ça, on a l'impression que ce qui pouvait paraître pour la sincérité comme ça au premier album, il y a un truc un peu cru, je mets mes tripes sur la table, c'est aussi un peu le problème. Une fois que tu mets tes tripes sur la table, la deuxième fois,
comme l'a dit Myriam ou cet excellent Twitter, il remet les mêmes tripes sur la même table, c'est ça qui est un peu gênant. Tu demandes pourquoi il a fallu 9 ans
pour moi, c'est
entre ces deux albums.
Pour moi, c'est trop de candeur, pas assez de tripes. Hein. C'est un peu... voilà, donc,
oui, c'est des tripes au cœur. Il les dépose délicatement sur la table.
Non, mais c'est un peu
avec une petite serviette en dessous. Hein.
Voilà, c'est de la folk un peu allongée à l'eau de rose. Et je trouve que ce côté, et qu'on retrouve quand même dans toute une frange de la pop aujourd'hui, les Mumford & Sons et compagnie, je trouve qu'il y a un côté comme ça très...
Je sais pas, moi je trouve que Damien Rice, il est assez unique en son genre en fait. Je sais pas à quoi ça tient, probablement à la voix, parce qu'elle a quand même quelque chose d'un peu tordu, cette voix. Elle est pas toujours juste, elle se brise un peu.
Parfois j'avais besoin de regarder les featuring pour voir si c'était sa voix, si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, ou parfois
c'est
je trouvais que...
Il y a pas de featuring apparemment.
Mais tu vois, c'est ça qui est étonnant, de temps en temps t'as l'impression que la voix partait, qu'il y avait une copine qui l'accompagnait.
Non, il y a des giclées orchestrales pour chaque morceau. Et je trouve que c'est un peu systématique aussi ça, pour le milieu du morceau, les violons attaquent.
Je suis d'accord.
Et voilà, c'est un peu, et je t'en rajoute, parce qu'il y a déjà la voix qui crée déjà quelque chose, un peu, on va venir titiller les sentiments, et je trouve ça, c'est un peu frelaté, voilà, je trouve que c'est très...
Okay.
Et ça fait, c'est un format qui fonctionne bien en radio, c'est le folk effémisé quelque part, quoi, je trouve qu'il y a...
C'est vrai.
FM Folk. Ouais,
c'est formaté pour un épisode de Grey's Anatomy. Mais...
oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
Pas si ça donne envie beaucoup.
Je pense qu'il y a la mort d'un personnage de Grey's Anatomy sur une de ses chansons dans une vieille saison.
Voilà, tout est dit.
On va terminer dans le jury de Rising Star.
Oh, mais quelle horreur.
Dans la mauvaise émission de télé-réalité, tu vois. La mauvaise.
Bon, alors on va pas en faire des caisses sur cet album, mais Laurent, dis-nous, toi qui vois sortir des bonnes choses, de quoi on aurait dû parler cette semaine?
C'est dur ça. De quoi aurait-on dû parler? Il y a plein de choses. Oui, il y a une compilation par exemple absolument succulente qui sort cette semaine. Je pense qu'il s'appelle Funky Chicken, qui va rechercher des pépites funky, groove, soul des années 70, mais belges. Avec des noms bien de chez nous, Vandenbruck et...
je vois pas votre problème.
Mais qui s'appelait Los Chicanos ou Los... Enfin bon, j'extrapole. Mais de Chacacas, par exemple. Il y avait de Chacacas.
Qui fait des combos.
Oui, c'est ça. Mais un groupe complètement latino, mais qui est complètement belge aussi, qui a vendu 1 million d'exemplaires du single Jungle Fever dans les années 70 aux États-Unis. Enfin voilà, des espèces de trajectoires comme ça, complètement... particulière, mais qui se retrouve donc dans cette double compilation qui sort cette semaine, qui est vraiment... Mais le chef l'a écouté aussi, il était assez emballé.
Oui, tout à fait. C'est assez bluffant de dire que c'était mitonné ici, sous nos contrées, sous nos cieux gris, mais c'est assez bluffant.
Il y a Placebo, par exemple, le groupe
de
Marc Moulin, des gens.
Le groupe de Marc Moulin. c'est le point Marc Moulin de la journée. Voilà. Moi, tous les jours, on me parle de Marc Moulin, je me demande quand ça va arriver. C'était aujourd'hui, à 14h52. C'est quand même de la niche, malgré tout. Est-ce qu'il y a un grand album...
1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis, c'est pas de la niche.
Non, mais je veux dire l'album de funk belge.
C'est sûr que Damien Rice, c'est moins une niche. Hein,
oui, qu'est-ce qu'il y a de pas niche, est-ce qu'il y a une grosse pépite pop qui...
Tu veux vraiment qu'on parle de Taylor Swift, par exemple?
Ouais.
Mais... qui vient, par exemple, de retirer tous ses albums de Spotify et dont l'album cartonne aujourd'hui dans les ventes aux États-Unis. C'est le seul album qui a dépassé le million d'exemplaires vendus de l'année. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'est le... seul disque qui aura vraiment... C'est ce qui n'était plus arrivé depuis un moment, je pense.
Bon, alors, moi, j'ai envie que tu
nous
parles...
Donc, la prochaine fois, nous parlerons de... Mais écoutez, j'ai pensé vous le proposer pour cette émission.
Bah oui,
c'était qu'on basculait complètement du côté pop de la force et qu'on n'était pas...
Oui, le chef pourrait pas assumer que, sous le label Focus Vif, on parle de cet album.
Nous en parlerons dans le prochain numéro du Focus.
D'accord. Et oula, c'est tombé.
Alors, on vient de faire un pire.
Et Subtract, enfin, je sais pas comment on prononce...
Subtract.
Ouais. Est-ce que c'est pas ça, l'album, la grosse pépite pop? Enfin, c'est pas tellement pop.
En tout cas, moi, je trouve que c'était un très bon compromis. compromis entre le background plus ou moins underground entre guillemets et le truc complètement accessible. C'est en gros c'est de la soul un peu moderne produite par un mec qui vient en gros du dubstep mais qui a rendu ça complètement accessible à tout le monde. Ouais, ça effectivement, s'il y a un album qui fait bien le pont, je trouve, entre le truc un petit peu de niche, comme ça qu'on disait, et le truc complètement accessible qui peut vraiment plaire à tout le monde. J'ai l'impression que ce serait un bon exemple.
Ah, c'est moi qui l'ai trouvé.
Ouais.
Moi, je mets 7 sur 10 quand même à cet album de Diamond Voice, parce que j'ai cru que j'allais mépriser, et en fait, non.
Je n'ai pas de mépris, mais je n'ai aucun intérêt, donc 6.
Ouais, pareil, 6.
5.
Ah, mais quand même.
Mais Philippe, par exemple, c'est dans le magazine, a mis 8, parce qu'il était assez emballé par la qualité du truc. Ça reste malgré tout, quand même, vachement bien écrit, foutu.
Oui.
Mais Philippe est un homme qui a du cœur. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Tous ses airs.
Et pas de mémoire, parce qu'il ne se souvient pas des albums précédents.
Bon, on termine cette émission avec le tour de nos tout derniers coups de cœur. Alors moi, j'en ai deux. Ben oui,
carrément.
J'ai le droit. C'est un spectacle en ce moment au Théâtre National, Le Cabaret du Bout de la Nuit. Je l'ai vu hier, c'était une vraie surprise. C'est une comédie musicale qui est en fait un commentaire super malin sur la Première Guerre mondiale. On dirait une grosse farce avec tous les codes de la comédie de boulevard, le vaudeville. Mais au fond, c'est complètement tragique. C'est une super production, comme le Théâtre National en produit souvent, un truc très étourdissant, avec beaucoup de moyens, avec des comédiens super costauds, qui chantent tous, qui chantent très bien. Une petite gommette à Ambre Growels. C'est une fille dont on entendra certainement encore parler. On l'a vue dans Baby Balloon, le film de Stéphanie Bersky. Jouait cette apprentie chanteuse XXL, hein, comme on dit. Et j'espère que c'est qu'un début pour elle, parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent, une personnalité hors norme. Alors, quand j'ai tapé son nom sur Google, j'ai vu qu'elle avait fait les auditions de The Voice
et qu'elle
avait raté.
Merci pour elle.
Mais oui. Elle est tellement mieux dans ce genre de registre. Le Cabaret du Bout de la Nuit, c'est jusqu'au 15 novembre au Théâtre National. Mon deuxième coup de cœur, c'est un disque, celui de Joy. Il s'appelle All the Battles. Et comme le disait un excellentissime journaliste de Focus que tu connais peut-être, Laurent Oubrex, Joy, c'est un groupe au crayonné charbonneux. Mais quelle belle formule.
C'est Philippe Cornet, ça.
Mais non, c'est toi. C'est toi. Donc, je rappelle brièvement, Joy, c'est Mark Huggins, ex-Vénus, avec ce tube Beautiful Days, qu'on retrouve partout, même dans la pub, la dernière pub Lancôme.
Confuseur de l'État.
Ouais. C'est Françoise Vidic qui, elle a fait l'Eurovision. Ouais. Quand on tape sur Google et sur YouTube le nom des gens, on a parfois des surprises. Et il y a Catel, c'est une Française, elle est bassiste et guitariste. Alors, ils font tous les trois une tresse avec leur voix. Il n'y a pas une seule voix. C'est un entrelac de timbres pour proposer un très, très beau disque organique, mais urbain. Enfin, je crois qu'urbain, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais il y a un peu de mousse sur le béton, comme ça. Puisque le béton est à l'ombre, il est humide. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas tout à fait la compagnie créole, c'est plein de spleen, mais la fenêtre est ouverte et par-delà les nuages, il y a quelques rayons de soleil. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est ce qui se fait de plus intéressant quasi en Belgique actuellement musicalement, et pourtant ils n'ont que 39 followers sur Twitter. Alors là, c'est vraiment incompréhensible. Peut-être, Laurent, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi Joy ne fait pas de buzz, en fait. Ça marche, mais ça marche petitement.
Peut-être en Flandre, hein, c'est ça, c'est comme toujours.
Ah oui.
Je ne sais pas, je pose la question.
Même pas, je pense.
C'est vrai, parce que d'habitude, Vénus, ils avaient touché, enfin... Mmh. A priori, tout se transformait en or à chaque fois qu'il faisait quelque chose.
Non, je pense que l'album précédent était quand même très très
sombre. Les temps ne sont plus les mêmes.
Non, l'album précédent était assez sombre, donc je pense que c'était pas facile de convaincre ou de séduire avec une formule qui, à ce moment-là, fonctionnait avec une basse. Une contrebasse, plutôt.
Un violoncelle,
c'est ça ? Violoncelle, pardon, c'est ça. Violoncelle. Donc ça rajoutait encore un peu de l'obscurité, de la lourdeur comme ça au propos, ce qu'il reconnaît lui-même, tu l'as rencontré aussi.
Je trouve que c'est un peu le Daniel Dark belge, quelque part.
Il y a peut-être un peu de ça. Et oui, je pense qu'il y a aussi la difficulté à se vendre aussi, de sa part. Je crois qu'il a été quand même. Mark Huggins a quand même été assez traumatisé à un moment par le succès de Vénus et l'emballement.
Ouais,
les tournées, les papiers dans les arts rock.
C'est monté très vite.
C'était le premier groupe belge rock francophone qui réussissait un peu à embrayer à la vague des Who's et tout ça qui venait d'Anvers. Et donc, je suis pas sûr qu'il ait toujours apprécié se retrouver dans cette situation-là. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'il reste très timide par rapport au fait de se montrer, enfin, mm-hmm. communiquer sa musique au plus grand nombre. Il est sur un petit label. Fin...
Tu l'as rencontré aussi, c'est une personnalité très intéressante et très chouette à avoir en interview.
Ah ouais, complètement. Qui a un chouette discours, qui a une chouette vision des choses et qui a moyen d'avoir une chouette discussion. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un de assez agréable à rencontrer, avec lequel on peut discuter. Donc, il y a plein de choses à raconter. C'est typique, mais voilà, je pense que il a du mal à se vendre, quoi, tout simplement. Mm-hmm. Il y en a pas mal comme ça, particulièrement en Belgique francophone.
C'est vrai, on n'est pas des stars à l'américaine. Mais Joy sera en concert au Botanique, je pense, le 19 novembre prochain. À vérifier si vous avez Google sur votre ordinateur, mais je crois que c'est le 19 novembre. Bon, tant que tu avais le crachoir, monsieur Oubrex, tes coups de cœur.
L'album de Run the Jewels, qui est un duo de hip-hop américain, qui est composé donc de LP, qui était dans... Ça devient un peu pointu, là. Je m'en rends bien compte.
On parlait de niche, mais j'aime bien cette niche.
C'est un peu niche, mais en même temps, donc deux mecs qui viennent de on va dire ça, du rap un peu underground. Donc LP, c'était Company Flow, le rap underground indépendant des années 90. Killer Mike, qui est donc la deuxième moitié, c'est un mec qui a été découvert par Outkast, et qui est aussi un peu végété, qui a un discours assez... politique, mais en même temps pas trop conscientisé, pas trop gnangnan. Donc ces deux-là se sont retrouvés. Le premier a produit l'album du second. Ils ont décidé de faire un album commun à deux, qu'ils ont sorti en téléchargement gratuit, qui a tellement bien fonctionné qu'il est finalement sorti en CD. Et donc là, il y a un deuxième qui est encore plus fort, je trouve, qui est vraiment du rap super inventif. Il y a un chouette discours. C'est assez fandard et en même temps il y a des choses à dire. Les mecs, ils ont entre 30, 35 piges, enfin, ils ont un petit peu de bouteille, donc c'est pas non plus un flow un peu bas du front. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de chouettes choses dans ce disque. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures plaques de rap de cette année.
Et je me rappelle que... Oui,
Run the Jewels, qui répond aussi un peu, enfin, c'est ce qu'on écrivait dans le Focus, c'est un peu aussi une réponse à tout le rap un peu bling-bling. On avait Watch the Throne il y a 2 ans avec Kanye West. Ouais. Et ici, c'est pas le trône, c'est... Enfin, si, ils arrivent pour le trône, mais c'est pour piquer les bijoux, quoi. Run avec the Jewels.
Ah, ouais. Voilà. Mais je me rappelle que tu nous avais parlé d'un autre disque de rap. Tu es vraiment une sorte de visionnaire. Hein. Young Fathers, je pense que c'était la première émission de cette année, tu me disais que c'est très bien. Eh bien, les jurés du Mercury Prize t'ont entendu, puisqu'ils ont gagné au nez et à la barbe de Damon Albarn et de FKA Twigs qu'on annonçait gagnante. Donc, on rappelle que c'est très bien, hein. Young Fathers.
Oui, c'est un album très court, mais très bien, qui mélange en effet hip-hop, sonorité plus industrielle, techno, enfin, pas techno, mais électro.
Électro, ouais.
Le chef, Laurent, tu nous regardes un peu bizarrement.
Ah non, on reste dans la musique, mais pour une expo, puisque je vous emmène à la Fondation Bogossian, Villa en Pin, un lieu que j'apprécie particulièrement.
Parce qu'il y a une piscine.
Parce qu'il y a une piscine dans laquelle je rêve de plonger un jour, mais voilà, je pense que ce ne sera jamais. Et l'expo actuelle, je trouve que c'est toujours un lieu... auxquels on peut faire confiance. Ils ont toujours des idées originales et ils vont surtout chercher des artistes qui ne sont pas les artistes qu'on trouve ailleurs. Ils ont leur réseau un peu partout dans le monde, réseau privé, ils arrivent à dégoter, à se faire prêter des œuvres. Et ici, donc, l'expo s'appelle Music Palace. Et le principe, c'est de voir un petit peu comment les artistes assez contemporains interprètent la musique, à la fois dans son volet intime ou son volet plus public à travers des œuvres transdisciplinaires. On a des installations vidéo, on a des sculptures, on a de la photo. Voilà, donc c'est très mélangé, une espèce de photographie très subjective et pas du tout exhaustive, mais qui prend un peu le pouls d'une thématique. Ici, c'est la musique. Alors, on voyage aussi bien dans une vidéo, par exemple, qui est assez magnétique, d'une artiste iranienne qui s'est filmée avec quelques amis en train de faire un marathon de danse à Téhéran, où il passe en boucle un des morceaux cultes de Pet Shop Boys, Domino Dancing. Et pendant toute la nuit, c'est le même morceau qui va tourner. Et il se filme en train de s'épuiser de plus en plus sur ses musiques. Et c'est C'est à la fois très, très grisant parce qu'il y a une dimension très politique. D'imaginer. Très politique, on sait où ça se passe, c'est dans une sphère privée parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans un espace public. Voilà, c'est, et en même temps, les paroles où ils disent un moment dans la chanson regardez-les tous tomber, voilà, c'est à la fois eux qui tombent, mais c'est aussi le régime. Enfin, c'est des choses comme ça où une espèce de méga installation avec une sonorité très basse qui prend aux tripes, et puis on penche la tête et on trouve une espèce de studio abandonné avec des néons dans tous les sens. Voilà, c'est des choses qui parlent, qui sont très accessibles, mais qui sont en même temps très fortes et qui apportent une réflexion sur la musique à travers le regard perçant de ces artistes.
Perçant, pas mal.
Perçant, iranien. Oh, bon.
Voilà, donc c'est la Fondation Bressan, c'est jusque mi-février, je pense, donc vous avez le temps d'y aller. Et si vous ne connaissez pas le lieu, avenue Franklin Roosevelt, c'est évidemment une pièce maîtresse de l'architecture bruxelloise, donc rien que pour ça, ça vaut le déplacement.
Ça donne envie en tout cas. Merci Laurent. Olivier ?
Mais je vais faire très vite après toutes ces belles choses, et surtout, j'ai reparlé d'une BD, donc après Burn, c'est sans doute le chef de l'année, c'est difficile, mais voilà, c'est une BD, ce serait dommage de passer à côté parce que je trouve ça vraiment excellent. C'est le deuxième volume d'un roman graphique en deux parties, donc qui s'appelle Max Winson. Et Max Winson, c'est l'histoire d'un joueur de tennis, et donc on peut être s'en foutre complètement du tennis, mais ça, voilà, c'est à peu près le mien aussi. Et en fait, c'est entre le manga et la nouvelle bande dessinée française, et c'est l'histoire d'un gamin qui est élevé à la dure, mais vraiment à la très très dure par son père pour en faire un champion, et qui est incapable de perdre, et qui doit essayer d'apprendre à perdre. Alors il y a cette histoire-là qui en soi est presque anecdotique, mais c'est de nouveau une expérience vraiment graphique. Le dessinateur Jérémy Moreau, il avait fait, pour ceux qui situent, un album qui s'appelait Le Singe de Hartepool l'année passée, qui avait été une sorte de succès surprise en BD, qui a reçu un nombre incalculable de prix. Et enfin voilà, c'est vraiment le succès surprise. Ceci, c'est plus discret, mais c'est vraiment graphiquement, c'est passionnant. Ça part dans des directions tout à fait surprenantes. Là aussi, on est entre l'onirisme, le réel, des choses complètement étranges, graphiquement très intéressantes. Enfin voilà, moi je conseille ce petit livre en termes de format. Max Winson, le tome 2, c'est chez Delcourt.
Merci, et merci à tous, parce que c'est déjà la fin. C'était bien cette fois-ci, non?
Mais cette fois-ci, oui.
Mieux, c'était mieux que les autres. On va continuer comme ça. On se retrouve dès qu'on en a envie, en fait, dans 2 ou 3 semaines, au gré de notre disponibilité. N'hésitez pas à liker la page Facebook de Focus Store, car elle existe. Elle est sur Facebook. Hein. Que dire encore d'autre à part...
Et on a plus que 39 followers, contrairement.
Ouais. Joy, je pense que c'est un peu cruel, parce qu'ils viennent de débarquer sur Twitter. Je pense que quand j'avais 2 semaines de vie, je n'avais pas 39 amis.
Je n'avais pas encore 300 000 amis.
C'est ça. À la prochaine. Salut.
Salut.